court d'idées de lecture, envie de découvrir de nouveaux genres ou juste à la recherche d'un premier pas dans le monde des livres, Voix au chapitre, c'est ta dose hebdomadaire de découvertes littéraires. Un livre, un extrait, deux émissions. Juste ce qu'il faut pour réveiller la curiosité et l'envie de tourner les pages. Présenté par Manuela, tous les samedis, à 9h10, au 101.5 FM ou sur radio-g.fr. Bienvenue et merci de m'avoir rejoint pour cette première émission de Voix au chapitre. Je suis Manuela, votre animatrice pour la saison 2025-2026. Cette émission sera l'occasion pour moi de présenter quelques pépites littéraires et pour vous de découvrir différents univers. Fantasy, science-fiction, thriller, non-fiction, romance, peut-être même quelques classiques. Mon objectif est que tout y passe, que tout le monde y trouve son compte. Alors, sur deux émissions à chaque fois, je vous présenterai un livre et vous lirai un extrait choisi par mes soins. Vous pouvez me retrouver tous les samedis matins à 9h10 pour 20 minutes de découverte littéraire en direct au 101.5 FM ou sur radio-g.fr ou retrouver les émissions passées sur le site rubrique Voix au chapitre. Et pour plus de découvertes et d'actualités sur mon émission, vous pouvez me suivre sur la page Instagram du même nom. Pour cette première émission, je vais donner voix au roman de Pierre Léauté, Je n'aime pas les grands. Fin de la Première Guerre mondiale. Augustin est défiguré par une balle qui aurait pu le tuer s'il était encore plus petit qu'il ne l'est déjà. Parce que oui, ce petit gosse mal aimé n'est jamais devenu un grand garçon. C'est peut-être son nom de famille, Petit, qui l'a condamné à haïr les grands. Imaginez, les Allemands, ces grands blonds aux yeux bleus. Ce sont des aberrations pour Augustin. Le racisme anti-juif, c'est surfait, en comparaison de cette impensable discrimination des plus d'1m75. Je n'aime pas les grands, c'est l'histoire de la création d'une dictature basée sur une haine tellement exagérée qu'elle en est hilarante, et pourtant effrayante. Hilarante, car chaque page donne à s'esclaffer. Effrayante, car lorsqu'on ouvre les yeux, on se rend compte de la justesse du récit. Alors, je vais vous plonger, pour ces deux premières émissions, au cœur de cette uchronie satirique sur la discrimination systémique. Dans ce début d'extrait, Augustin cherche à se faire entendre, à présenter sa cause. Il organise donc une réunion. On se retrouve après cet extrait. Bonne écoute sur Radio G. Chapitre 5, le discours. Je l'avais mûri pendant une semaine. Que dis-je ? Toute ma vie. Rompant ma promesse de ne plus m'adonner à la littérature, mais la cause était juste. Dans ce nouveau carnet, nulle romance à l'eau de rose. Pas l'once de rebondissements ineptes ou de personnages fabriqués. Non, la vérité, pure et simple, dans son plus triste appareil. Le calendrier marquait le 11 novembre, en ce jour anniversaire funeste. Ma prose tremblait dans ma main quand je rejoignis l'Auvergnat. Il y avait 10 personnes, tout au plus, dans l'arrière-salle, et l'estrade n'attendait que moi. Rempli d'espoir et de frayeur, je me hissais sur le plancher surélevé. « Mes amis, mes frères !» lançais-je à la cantonade. Un auditeur rota en retour. Je ne me démontais pas. « Nos ancêtres glorieux, Vercingétorix en tête, nous ont tracé la voie. Ils ont su taire leur discorde quand l'ennemi les encerclait. » Et je... « Apportez-moi un petit rouge !» commanda un autre qui me tournait le dos. « Et je... sais que nous vivons ces mêmes instants tragiques. Les États-Unis nous ont abandonnés à notre sort alors que Lafayette et ses navires les sauvèrent sans contrepartie. Non, ce ne sont pas des amis, ceux qui vous poignardent dans le dos. » 3 compères avinés, qui n'avaient rien à faire de moi, entonnèrent alors un chant de troupe rigolard. « Imbécile !» me mis-je alors à rugir à leur adresse. « Jouerez-vous encore les tourlourous ?» Quand Paris sera à feu et à sang, aurez-vous le cœur à boire ? Le mien pleure de rage. L'Angleterre n'a pas rendu les armes, elle. Elle se bat comme une diablesse et elle est bien la seule. Tous se turent avec la honte des écoliers devant le maître. Je brandis haut une carte à demi déchirée. Voici comment l'Europe tout entière sera remaniée. Le Deutsches Kaiserreich s'étendra jusqu'en Russie, à l'est et s'arrêtera à l'ouest, au Havre, à Rouen et à quelques dizaines de kilomètres de Paris. La Norvège, la Suède et le Danemark seront leurs alliés contraints. L'Angleterre, une fois vaincue, deviendra un vulgaire protectorat germanique. Guillaume donnera même l'indépendance aux Polonais, aux Irlandais et aux Écossais, non par amour de la liberté, mais celle de la tyrannie. Quant à nous, pauvres Français, le pire s'est déjà réalisé. L'outrecuidance et la folie germanique ont réduit notre Gaule à une terre d'empire. Des cris de colère vinrent appuyer ma harangue. « Ouais, il a raison. On n'est pas des boches. Ces machinations odieuses ne sont pas des lubies et Poincaré nous a vendus aux Allemands et aux traîtres. » Pointai-je du doigt un bougre de 2 mètres qui pénétrait à son tour dans l'arrière-salle. « Vous les connaissez, ces vermines qui mangent notre pain ?»« Les Juifs !» lança un premier, la bave aux lèvres. « Les épiciers !» tenta un deuxième, qui baissa ensuite les yeux. « Ben oui, le mien vend le litre presque 1 franc. »« Ouais, les épiciers aussi, tous des voleurs !»« Surtout les épiciers juifs, ce sont les pires !» clama un troisième, galvanisé. Je tempérai ses ardeurs, bon enfant, d'un geste du bras. « Non, le véritable ennemi de la France a prospéré en son sein. »« Ah ? Qui ?» s'étonnèrent les curieux. « Les grandes perches !» assenai-je d'un coup à l'assistance médusée. Ils ont précipité la France dans le marasme. Nuls pour le camouflage, mangent les rations de leurs camarades, ils nous ont fait perdre la guerre. Un pilier de bistrot se leva de son tabouret, titubant sous l'indignation. « C'est un scandale ! Mon père, mon grand-père ont servi sous nos couleurs. Je suis aussi grand qu'eux. C'est un fou, m'entendez-vous ? Un fou ! Notre sang sera bientôt abâtardi par ces géants blonds aux yeux bleus. Toi, mon ami, tu es plus brun que le charbon. Nous te tolérons bien, va. Mais ta fille, ta sœur, elles devront se soumettre aux Germains. Il ne restera rien de ce pays qui nous a vu naître quand ses enfants ressembleront tous à Guillaume. » Et comme la glace était rompue, je chantonnais la Kaiseriole sur le ton de la Carmagnole sous les applaudissements nourris de mon auditoire conquis. Après mon discours, beaucoup vinrent me serrer la poigne. J'en vis même un me donner un peu d'argent pour aider la cause. Raymond me félicita une fois le dernier client sorti. Promets-moi de parler à nouveau jeudi prochain, Augustin. Plusieurs semaines durant, je tensais les escrocs et les profiteurs. J'accusais les frites et puis surtout les grands. Je martelais devant un public de plus en plus bondé combien les boches se moquaient des Français, plus petits. Des nains. L'Auvergnat, lui, faisait sale comble chaque fois que je foulais au pied le traité de Berlin. Une paix injuste, mais le lit des rivières n'est-il pas l'amas de cailloux avant de se voir écrasé de roches ? Que les petites gens se soulèvent et c'est toute la France qui se relèvera contre l'envahisseur. Oh, mes amis, quelle victoire éclatante que de purifier notre parti des poids qui l'oppressent. Nous serions forts à nouveau pour 1000 ans, mais ne vous y trompez pas, il faudra de lourds sacrifices. De jeunes soldats sont déjà morts à mes côtés pour combattre la barbarie. Ah, Mangin, mon cher Mangin, toi le camarade à qui j'aurais donné ma dernière ration, mon fond de gourde, tu n'es pas mort en vain, mais pour ce jour de victoire. Nos ennemis ne comprennent que la force, et bien nous leur imposerons la nôtre. Je mourrai pour notre liberté. Et vous, sang de mon sang, mourrez-vous à mes côtés ? Oui, s'exclamèrent-ils comme un seul homme. Sur l'estrade, je fis alors ce geste impérieux, ce noble salut de ralliement. « Mort au grand !» m'écriai-je, le plat de ma main droite sur le sommet du crâne. « Mort au grand ! Mort au grand !» scandèrent enfin mes partisans, fiers d'imiter ce même salut. Un homme débarqua un jour au Coquet, moustache fine et regard perçant. Il demanda à me rencontrer, mais l'Auvergnat lui mentit. « Il n'habite pas ici. » « Ne soyez pas sur vos gardes, patron. » Je ne suis ni espion, ni journaliste. Que lui voulez-vous ? Le mystérieux inconnu aurait fait quelques pas dans la brasserie, son fedora à la main, puis se serait contenté de lâcher ces mots énigmatiques. Lui donner une armée. Vous écoutez toujours Voix au chapitre sur Radio G, au 101.5 FM ou sur radio-g.fr, où je vous plonge aujourd'hui dans le roman « Je n'aime pas les grands » de Pierre Léauté. Bonne écoute. Chapitre 6. La milice. Le mardi, soir de discours au club, il était au premier rang pour m'écouter. Quand une vermine me siffla et jeta sa bouteille dans ma direction, il se leva de sa chaise et châtia l'impudent. Il le prit par le col et sans hésitation lui administra un triomphal coup de pied au cul. « Et ne reviens pas, collabo !» Me penchant vers Raymond, je lui murmurai quelques mots à l'oreille. « Est-ce l'homme au chapeau ?» Un rendez-vous fut arrangé. Joseph Gernot était trapu, mais large des épaules. Une balafre lézardait son menton et il ne cessait de la caresser du doigt. Il se présenta sous le grade de capitaine et se dit fervent partisan de ma cause, moi qui n'étais que caporal au sortir de la guerre. Non, je ne bois jamais. L'Auvergnat remisa son armagnac, sceptique. Un homme qui ne boit pas est un homme qui cache quelque chose. Il remarqua alors la bosse sous le manteau de Gernot. Que dissimulez-vous donc ? Les temps sont difficiles pour un patriote, répliqua le soldat démobilisé en sortant la crosse d'un pistolet. Nos rues grouillent de communistes, de schloss et de mauvais français. Moi et mes hommes, nous avons le coup de feu facile quand il y a du grabuge. Il posa l'arme au beau milieu de notre table, je la soupesais avec l'habitude de ceux qui les manient. Le semi-automatique était chargé. Vos hommes ? Des camarades, des héros que l'on a salis. J'ai aujourd'hui 200 braves à mes côtés, mais des milliers n'attendent que de protéger la France contre ses ennemis. Je lui rendis le rubis. Les grands nous ont précipités dans l'abîme. Commandez-moi et je saurai les y précipiter à leur tour. Joseph Gernot tint parole. Dès le mois de janvier 1920, les culottes d'acier patrouillèrent dans la capitale. Multipliant les intimidations, jetant des briques dans les boutiques tenues par des grands, puis interdisant aux citoyens d'aller dépenser leurs économies dans ces bougues. Mieux, ils poussaient les blonds dans les flaques d'eau et leur faisaient bisque, bisque, rage. Plus terrible encore, les CA dessinaient la lettre P comme petit partout où ils le pouvaient. Sur les poubelles, les pupitres d'écoliers, les prisons, les parcs de promenade, les pharmacies, les poulaillers, partout. La presse commença à s'intéresser de près à ces agitateurs habillés de noir qui jettent l'anathème sur les plus illustres de nos citoyens. Ces vauriens de gratte-papier. J'aurais donné cher pour les museler. Chaque mardi, désormais, nous refusions du monde. Le succès de mes discours était tel qu'il fallait trois représentations successives pour combler une foule grandissante. Diable, il y avait tant d'esprits obscurcis. Les Allemands n'ont jamais cessé de nous envahir. Vandales, Ostrogoths, Visigoths, Tudesques, leurs méfaits s'étalent dans l'histoire. Barbares ils étaient, barbares ils demeurent dans nos murs. Leur langue est à n'y rien comprendre. La nôtre est si raffinée, si intelligente en comparaison. Rabelais, Molière, Bécassine, lança une voix. Et, Bécassine, bien sûr. Ce sont des sauvages, des bêtes qui puent. Et savez-vous pourquoi ? Ils mangent de trop. Notre viande, notre pain, jusqu'à nos enfants. Ces cannibales sont des doryphores, des parasites qui ont si bien grossi qu'ils ont grandi contre les lois de la nature. Les grands puent, car ils pètent sans cesse. Un soir, un pauvre bougre eut le malheur de lâcher une perle à cet instant fatidique, sous les yeux suspicieux de tous. Il quitta la salle, tête basse, tandis que ceux qui avaient commandé des faillots se retenaient de s'engouinfrer. L'indéfectible Gernot assurait ma protection et posait chaque fois le premier la main droite sur sa tête quand nous chantions la Marseillaise. Pourtant, même les plus fidèles alliés viennent à mordre la main qui les nourrit. Un soir, autour d'un verre. Augustin, mes hommes se plaignent. Allons donc, ignorais-je. Leurs jérémiades ne sont rien. Notre cause est tout. Gernot m'inspecta de pied en cap, avec une licence qui ne me plut guère. Vos costumes sont neufs, mais les uniformes de ma garde ne le sont plus. Nous frappons à coups de bâton parce que les balles manquent. Quelle misère ! C'est à peine si les collabos s'en tirent avec trois bosses. Votre garde ? Manquais-je de m'étouffer ? Où est passé votre discernement, capitaine ? Les culottes d'acier seraient déjà à l'agonie sans moi. L'Auvergnat se mêla de la partie. Il était rond comme une queue de pelle. Et d'ailleurs, qu'est-ce que cela comme nom, culottes d'acier ? Pourquoi pas caleçon de fer ? Les culottes, ça fait très Révolution française, la lutte contre les privilèges. Me surpris-je à défendre Gernot, qui attaqua Raymond bille en tête. « Eh bien, proposez quelque chose, vous qui êtes si spirituel !» Le patron de brasserie prit une large inspiration, fronça un sourcil, puis l'autre, avant de recevoir la révélation divine. « Les culottes sombres !»« Et pourquoi cela ? Les Italiens ont bien les chemises noires ?»« Vous n'êtes qu'un copieur !» cracha le militaire, qui crut bon d'ajouter une dernière pique. « De toute façon, appeler nos vaillants soldats les culottes sombres, ça ferait comme s'ils avaient chié dans leur froc !» Offusqué, l'Auvergnat me prit comme témoin. « Ah ben moi, je suis désolé, mes culottes d'acier, ça passe pas. Vous savez pas la dernière ? Les communistes les tabassent direct dans les couilles maintenant. »« Parce que vous êtes pas foutu de me payer 3 munitions, » gueula Gernot. « Non mais alors, où on va là, hein ? Où on va ?» Un long silence tomba, jusqu'à ce que l'Auvergnat lève le doigt en l'air. « Non, mais faut arrêter en fait avec cette histoire de culottes. Moi je verrais bien des bérets bleus, blancs et rouges. » C'est à la fois quelque chose de coquet et de très saillant. Vous, vous êtes un fin stratège, monsieur le bistrotier. Et le camouflage, ça vous parle ou vous faites exprès d'être con ? Je ne pouvais en supporter davantage. Je m'emparais du pistolet de Gernot et pressais la gâchette en l'air. Assez ! Il vous faut de l'argent ? Eh bien j'en trouverai. Mais par Dieu, vous aurez intérêt à en faire un meilleur usage. Je ne mentais pas le moins du monde. Des bourgeois m'avaient déjà proposé des donations que toujours je déclinais. Mais le peuple de France était une maîtresse difficile à mettre dans son lit sans finances, pour écarter ses autres prétendants. Gernot grommela tout de même en partant. « C'est malin, ma dernière balle !» Contre toute attente, l'argent ruisselait dans notre pays, mais point de toutes les poches. Les réparations exorbitantes exigées par l'Empire de Guillaume II furent payées rubis sur l'ongle dès le début du mois de juin 1920. La presse rapportait combien l'Allemagne se félicitait d'une telle docilité et qu'elle promettait déjà de nous lâcher la bride. Des élections libres. Quoi ? Je préférais autant assister au spectacle de Guignol. Là, au moins, je ne voyais pas les mains des marionnettistes guidant leurs pantins. Remontant la rue des Martyrs, je vis un attroupement autour d'un homme juché sur les marches des Halles. « C'est la faute des vieux si nous crions famine !» criait ce beau parleur aux curieux amassés. Regardez-les faire leur marché. Ils ne sont pas à plaindre. Ils choisissent les tomates les plus goûteuses et vous laissent les blettes. Ils s'en fichent puisqu'ils ont tout le temps du monde et tout l'argent de nos banques pour voler dans nos étals. Ils nous gouvernent même. Clémenceau a 80 ans, l'âge de sucrer ses fraises. Nom de décider pour les jeunes de France. Halte aux vieux. Il a raison. Il pique nos places dans le tramway. Je passais mon chemin, la mine bien sombre. Que de partis naissaient ces derniers temps. Et le complot des vieux n'était qu'un parmi la multitude. Les foulards rouges, les monarchistes de l'Action française, les anarchistes, tous réclamaient leur part, et moi je ne possédais ni l'appui d'une puissance étrangère, ni l'amitié des nobles, encore moins le soutien de ces fichus poseurs de bombes. Il me fallait frapper aux portes des puissants, sinon les culottes d'acier continueraient de passer pour de vulgaires fauteurs de troubles. Cette émission touche à sa fin pour aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté, d'avoir été présent pour cette rentrée avec moi, en espérant vous avoir donné envie de m'écouter de nouveau et peut-être de découvrir ce roman par vous-même, une fois la deuxième émission écoutée. Nous étions sur le roman « Je n'aime pas les grands » de Pierre Léauté et on se retrouvera la semaine prochaine pour plus d'obstacles sur la route de notre petit Augustin. Vous pouvez toujours réécouter cette émission sur le site de Radio G, rubrique Voix au chapitre, et suivre l'actualité de l'émission sur sa page Instagram du même nom. En attendant, restez connectés sur Radio G pour l'émission Samedi Souvenir de 10h à midi. Il est temps de tourner la page pour aujourd'hui. Bon week-end ! À court d'idées de lecture, envie de découvrir de nouveaux genres, ou juste à la recherche d'un premier pas dans le monde des livres, Voix au chapitre, c'est ta dose hebdomadaire de découvertes littéraires. Un livre, un extrait, deux émissions. Juste ce qu'il faut pour réveiller la curiosité et l'envie de tourner les pages. Présenté par Manuela, tous les samedis, à 9h10, au 101.5 FM ou sur radio-g.fr.